Radio Okapi. Okapi service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore et merci de votre fidélité. Comment impliquer les jeunes dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo? On en parle aujourd'hui dans au Capi Service avec le professeur Eustache Kidi Kwadi. Il est docteur en sciences de l'environnement. Professeur Eustache, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations par rapport à l'implication des jeunes dans la forêt, dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo et surtout le respect des dispositions légales par rapport à quant à ceux. Nous allons échanger autour de toutes ces de tout cela dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous voulez participer, le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-6394, écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission qui présente Jody Daniel Kachama, Polydor Basunga à la mise en onde.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Bien, les forêts du bassin du Congo représentent le deuxième massif forestier tropical du monde après le bassin amazonien. Ces forêts denses et humides couvrent environ 200 millions d'hectares, dont plus de la moitié se trouve en République démocratique du Congo. Cependant, cette forêt subit une forte pression des communautés locales qui y tirent les ressources dont elles ont besoin, les charbons de bois, les bois d'œuvre, etc. Les jeunes jouent également un rôle majeur, dans la déforestation et la dégradation des forêts primaires. D'après les experts, le non-respect de la loi sur la gouvernance forestière est souvent à la base de tout cela. Quelle stratégie adopter pour faire respecter les prescrits de la loi concernant par exemple le reboisement et autres? Eh bien, nous allons en savoir plus avec notre invité. Il s'agit du professeur Eustache Kidi Kwadi, docteur en sciences de l'environnement. Professeur Eustache, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Alors, nous parlons de l'implication des jeunes dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gestion durable des forêts du bassin du Congo, professeur?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question et aussi pour le thème que nous voulons traiter sur participation de la jeunesse en ce qui concerne la gouvernance forestière. Vous savez, avec le développement durable que nous parlons aujourd'hui, d'abord nous voyons ce sont des enfants. Donc l'utilisation notamment des ressources forestières ou de la forêt, il faut tenir compte de la génération future. Et c'est là où nous allons dire développement durable. Mais si aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de constater, une pression forte qu'on venait de soulever, la forêt est disparue et puis il y a des étendues qui sont transformées dans telle ou telle activité, ça sera difficile pour les générations futures. C'est pourquoi il faut que les jeunes doivent participer massivement par rapport à cette gouvernance forestière. Ça sera quelque chose de très, très, très capital, étant donné que la RDC, deuxième poumon, vers après la forêt d'Amazonie, qui est connue, et la jeune est obligée de participer par rapport à notre par rapport à nos ressources forestières.
Bien. Alors aujourd'hui, comment se présente la situation par rapport à l'exploitation des forêts du bassin du Congo? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les communautés? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours une forte pression sur nos forêts jusqu'à ces jours?
Oui, bien sûr, il y a une forte pression. Vous savez, aujourd'hui, même si nous disons il faut conserver, il faut qu'il y ait une gestion durable. La première chose, il ne faut pas demander aux gens de ne pas couper, de ne pas utiliser. La population locale est obligée d'utiliser parce que les ressources sont à la disposition de la population locale. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, cette population est abandonnée. Nous partons là-bas, on donne des instructions pour dire que non, voilà, il ne faut pas couper la forêt, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas prélever les ressources. Mais nous devons aussi penser à cette population locale. Mais si la population locale ne participe pas à la gestion, notamment de la forêt, nous n'avons pas parlé de développement durable, parce qu'ils vont faire toujours la pression, ils doivent satisfaire leurs besoins au quotidien, mais si la population locale ne participe pas à cette gestion, ça sera très très difficile. Et nous savons aujourd'hui, il y a même, quand vous allez constater, dès que nous parlons des forêts, il y a même des écoles sans bancs. Vous trouvez une école, il n'y a pas de bancs. Et la plupart des étendues forestières sont transformées, notamment aujourd'hui, en savane, et on ne comprend plus qu'est-ce que nous devons faire. C'est vrai de parler des yeux pour mon verre. Mais nous devons faire des inventaires continuels pour voir actuellement quelle est la superficie réelle à travers, par exemple, toutes les provinces de la République démocratique du Congo, que nous devons participer, voir des inventaires continus. Mais ce sont les jeunes qui sont au centre de tout. Parce que si aujourd'hui, la jeunesse est en train de prendre en charge aussi de participer en ce qui concerne l'exploitation notamment ou en termes notamment des forêts, ça sera quelque chose d'intéressant pour le développement durable. Mais si la population locale, notamment la jeunesse, ne participe pas à cette gestion, ça sera quelque chose de très difficile. Il y aura toujours des problèmes. Actuellement, allez vers la route qui mène vers l'ancienne province, dont notamment Bandundu. Combien de véhicules vous allez observer du matin jusqu'au soir? Vous allez trouver rien que rempli de makala, de sacs. Allez dans la province de Congo central, vous allez trouver chaque jour. Donc les forêts sont transformées, les étendues sont tout à fait transformés en savane et nous sommes obligés maintenant d'appeler les jeunes de participer en massivement, poser des actes qui sont réfléchis en termes de la gestion des forêts.
Donc on peut dire que ce sont toujours les jeunes qui font les makala, qui vont couper le bois, et qui font la chasse et bien d'autres choses.
Bien sûr, donc nous ne parlons pas que tout simplement les jeunes. Aujourd'hui, vous savez, nous parlons de la population. Donc en termes de la population, c'est presque toute la population qui participe. Mais nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Même s'il y a des emplois, avec quoi ils peuvent faire suivre? La plupart des jeunes qui terminent les études aujourd'hui, si vous allez dans nos villages, enquêter, vous allez voir, ce sont les diplômés. Ils entrent dans la forêt pour faire des makala et autres. Alors, il faut notamment occuper de ces jeunes, poser les actes qui sont réfléchis. Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver nos écosystèmes forestiers? Sinon, avec l'avenir, ça sera très très difficile. Il n'y a pas tout simplement les jeunes, mais il y a aussi la population âgée qui participe, qui sont les plus âgés, qui utilisent la forêt pour satisfaire leurs besoins. Si au niveau du village, vous n'avez pas d'emploi, on ne crée pas des emplois, mais la population va faire pression dans la forêt, il faut couper, il faut transformer. Et c'est ça que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Allez, c'est comme je suis en train de dire, vous allez voir même des photos à travers la route ancienne province, notamment donc Bandundu, vous allez voir combien de véhicules qui passent, qui viennent pour alimenter la ville de Kinshasa. Et la province de Bakongo, combien de véhicules? Là, ce sont des provinces qui sont tout proches et ceux qui sont éloignés par rapport à la ville de Kinshasa. Donc, c'est un phénomène que nous devons tout faire pour trouver des solutions et la population, notamment les jeunes, sont obligés à participer parce que sur la fonction des jeunes, où nous parlons de développement durable. Et c'est ça ce qui est très intéressant.
Professeur, il existe une réglementation par rapport à la coupe de bois. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que la loi a prévu concrètement en ce qui concerne la coupe de bois?
Bien sûr, la coupe du bois, c'est comme je vous ai dit, on ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas couper le bois, ce n'est pas une solution, il faut trouver une solution alternative. Il peut couper un bois en condition qui est une coupe qui est raisonnable, c'est-à-dire qui a un besoin qui se présente. Mais si vous coupez par exemple un bois, vous êtes obligé de planter 10 arbres en principe. Mais si aujourd'hui la plupart des gens vous coupez, il n'y a rien que vous allez restituer. Monsieur le journaliste, après quelques années, il y aura des vides, il y aura des éclaircies. C'est ça que nous devons faire. Bien que nous avons des superficies importantes, ça c'est vrai, je n'en disconviens pas. Mais avec la loi, si la loi aujourd'hui, on publie, si la loi aujourd'hui est là, et qu'il n'y a pas des informations, ça ne passe pas à travers les masses médias, à travers la population vulgarisée, ça sera compliqué. Celui qui coupe un bois est obligé de planter 10 arbres, ça serait intéressant. Mais si les gens n'arrivent pas à planter, on fait que la coupe chaque jour. Allez, vous allez voir comment la forêt est transformée aujourd'hui en savane. Et c'est ça ce qui est important. La loi existe, c'est vrai, je n'en disconviens pas. Mais cette loi, il faut vulgariser. Dans des écoles, les écoles primaires, les écoles secondaires, à l'université, à travers l'armée démocratique du Congo, dans nos villages, ça serait quelque chose d'intéressant. Mais si vous prenez cette loi, vous mettez dans les tiroirs, ou soit dans les journaux, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de lire. Mais il faut passer, vulgariser, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, des campagnes de donner l'information à la population, pour que la population sache que ce que je fais, notamment je dois couper, c'est vrai, mais je dois aussi restituer.
Bien, donc vous dites que celui qui coupe un arbre doit planter combien?
Il doit planter 10 arbres.
10 arbres?
Oui, 10 individus, 10 arbres.
Voilà, c'est ce que prévoit la loi?
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce qui fait que cela n'est pas du tout respecté, professeur?
Bien sûr, mais c'est ça, je souhaite dire. D'abord, au besoin, si la personne n'est pas informée que lorsque vous coupez un arbre, il faut restituer, il faut planter. La personne ne connaît pas, c'est dit, il faut donner l'information, il faut vulgariser. Nous avons des différentes provinces dans notre pays, nous avons des territoires, nous avons des groupements, des villages. Ça doit passer et la population, les gens vont comprendre effectivement ce que je fais, c'est un acte vrai. Je suis devant un besoin, mais je suis obligé aussi de planter, je dois reboiser. Parce que si vous coupez, il faut obliger de reboiser, mais si on ne reboise pas, ça sera un vide, c'est un éclairci, ça sera très très dangereux. Ça, ce sont des pertes. Donc, reboiser, plutôt couper, et aussi penser au reboisement.
Bien, on va accueillir un premier auditeur dans cette émission, Justin Dounia, qui nous appelle des Moubi au Nord Kivu. Comment impliquer les jeunes dans la gestion durable, dans la gouvernance forestière, et comment faire respecter la loi? Nous avons en ligne Justin Dounia, depuis Moubi. Bonjour.
Bonjour, je le dis, Daniel Kishama, bonjour à tous les amis qui suivent cette émission à Moubi, en territoire de Walikale, à travers le relais de la radio communautaire souterraine.
On vous écoute, Justin.
Oui, je salue d'abord votre bravo pour le bon choix de cette thématique qui cadre avec la déforestation, comment protéger la forêt, comment impliquer la jeunesse pour cette protection. C'est une très très bonne thématique d'ailleurs. Bon, en fait, je vais d'abord m'inspirer du territoire de Walikale où nous sommes présentement, qui est un territoire vraiment couvert par une grande masse de la forêt. Là, s'il faut parler maintenant de l'implication de la jeunesse pour la protection de cette forêt, normalement, je trouve un peu compliqué cette histoire ici. Pourquoi? Parce que la jeunesse de Walikale, dans un premier temps, reste dans la plupart des œuvres, c'est-à-dire les jeunes n'ont pas du travail. Alors, lorsque les jeunes n'ont pas de l'emploi, ils vont se débrouiller de leur façon, malgré le niveau de qu'ils ont, ils n'ont pas eu la chance d'être embauchés quelque part par le gouvernement provincial ou d'autres domaines qui cadrent avec la spécialité qu'ils ont toutes au niveau des universités. Alors, qu'est-ce que les jeunes manquent à faire? Ils vont maintenant se débrouiller autrement, où ils deviennent de bûcherons, donc ils vont abattre les arbres, ils vont abattre les bois, pour de plein de routes. Et là, même le principe que j'étais en train de dire, par rapport à la loi, que non, lorsqu'il abat un arbre, il faut en planter autant. Imaginez-vous un jeune qui n'est pas sensibilisé, qui n'est pas sensibilisé par le service de l'environnement, qui n'est pas sensibilisé par le gouvernement. Et donc, lui, quand il abat un 10, il n'a même pas le temps d'implanter autant. C'est-à-dire, en propre avis, je veux souligner que le service de l'environnement, avec le ministère chargé dans le domaine, que ce ministère puisse épanouir ses œuvres. Donc, ça ne reste pas seulement au niveau national ou provincial, juste au chef-lieu, mais plutôt il faut épanouir les actions dans des milieux ruraux, surtout qui sont couverts par la forêt, monsieur Jolie Daniel Kachama.
Bien, merci. Charles Kissimba de Lumbashi, bonjour.
Charles Hésité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'implication des jeunes dans la gouvernance forestière?
Oui, par rapport à l'implication des jeunes, moi je pense que les idées, il ne doit pas s'arrêter à condamner tout simplement les jeunes. Sinon, chacun cherchera à tirer les draps de son côté. Ici à Lubumbashi, la fabrication des braises, par exemple, est devenue une source financière dans plusieurs ménages. À part la moto, les vélos, j'ai ensuite la fabrication des braises. Alors, qu'est-ce à tout, qu'est-ce à l'initial, permettre de faire sur cela. Moi, je pense que la population risque d'être exposée à une pauvreté là qui ne dira pas son nom. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'entité peut proposer au gouvernement, parce que c'est surtout le manque d'emploi qui fait à ce que la population puisse couper en désordre les arbres ici à Lubumbashi. Vous trouverez sur la route de Kasenga, par exemple, d'ici 15-20 ans, on ne sait pas s'il y aura encore les arbres. Alors on a peur. Ce qui explique même la plus tardive ces derniers temps. Nous sommes vraiment exposés, nous ne sommes pas contre. Parce que notre bien est aussi en dépend. Mais parce que ça constitue maintenant une source financière, c'est là où les gens arrivent quand même à se débrouiller pour trouver quelque chose pour leur survie. Alors là, ça constitue aussi un autre atout qu'il faut, mais très vite là, la solution. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire.
Merci Charles de Lubumbashi. Comment impliquer les jeunes dans la gouvernance forestière? Bienvenue, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour au professeur.
On vous écoute.
Oui, je dis, quand nous parlons de la forêt, je crois qu'il ne fallait même pas céder l'implication des jeunes ou des autres générations. Aujourd'hui, il faut se dire une chose, on exerce beaucoup plus de la pression sur la forêt, parce que si nous parlons de la forêt dans les milieux ruraux, il faut considérer la forêt comme étant un marché, un supermarché, un quincaillerie. Donc, les gens trouvent tout là-bas. Lorsqu'il n'y a pas des actions alternatives qui peuvent faire que les gens cessent de faire la pression sur la forêt, on peut beau crier, on peut animer les émissions du 1er au 30, plus rien ne va changer. Ce qu'on peut faire, parce que nous savons qu'aujourd'hui au Congo, les jeunes sont désœuvrés. Quand on est désœuvré, même nous qui vivons dans la ville, quand on se sent asphyxié, peut-être qu'il y a des fois, on cherche comment faire les champs. En faisant ces champs-là, l'agriculture aussi est à la base de la déforestation. Il y a les fonds qui sont octroyés par la Banque mondiale ou les institutions de Bretton Woods par rapport à la protection de la forêt. Aujourd'hui, quand on parle de la RDC comme étant un pays solution, nos autorités doivent être impliquées. Parce que si on parle des pays solution aujourd'hui, que cette massive forestière est aujourd'hui détruite, demain nous ne serons pas en mesure d'accéder à ces financements-là. Moi, j'aurais proposé le financement que notre pays a bénéficié tout dernièrement par rapport à la COP26, que les actions puissent venir des populations riveraines. Qu'on cherche les moyens alternatifs pour que ces populations-là puissent trouver aussi gain de cause. Tant que cet argent-là va rester ici à Kinshasa, ça va rester dans les bureaux climatisés, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut crier, notre forêt sera toujours envahie par la population.
Bien, merci, bienvenue de Kinshasa. Professeur Eustache.
Je suis à l'écoute.
À vous la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui viennent de poser des questions?
Oui, il y a toujours de mêmes idées. Donc, il faut poser d'abord la question. Pourquoi aujourd'hui la forêt est détruite? Pour quelles raisons? Comment? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est la raison pour laquelle nous pensons à certaines solutions comme quoi il faut créer des activités alternatives. Parce que la plupart de nos jeunes au niveau du village, ils ne sont pas employés, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'activités. Alors, vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça en train de vivre sans qu'il y ait de l'argent, ça serait difficile. Ce sont des personnes, ils ont besoin, ils doivent exploiter les ressources, mais la condition est que l'État doit impliquer dans cette matière. Il doit impliquer dans quel sens? Nous avons les différentes provinces. Et on peut avoir capitaliser toutes les informations possibles à chaque province, que chaque gouverneur, il y aura à mesure de voir quelle est la superficie réelle par rapport en termes de forêt dans sa province, et ça serait intéressant en termes notamment de l'utilisation, comment les jeunes peuvent le faire. Si aujourd'hui il y a des activités au niveau des jeunes, je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas une forte pression. La déforestation dont nous parlons aujourd'hui, l'agriculture et tout un d'autres ce que nous sommes en train de crier. Nous pouvons présenter des émissions et des émissions. Je vous assure, du 1er au 30, comme venait de dire le prédécesseur, sachez que l'État congolais est obligé vraiment à intervenir. C'est à lui d'intervenir et l'État est représenté. Nous avons, il y a des gouverneurs, il y a des chefs coutumiers, etc. Et il faut qu'il y ait développé des activités alternatives. C'est ça ce qui est très important. Parce que si aujourd'hui il y a des activités alternatives, je vous assure que même si on peut aller dans la forêt, parce que la forêt constitue un magasin, tout est là-dedans. Et vous allez trouver que les jeunes seront en mesure, peut-être, il n'y aura pas une forte pression comme aujourd'hui. Je vous assure, nous sommes dans la ville de Kinshasa, nous mangeons parce qu'à des fois, il y a un peu de champignons ou quoi qu'on est en train d'amener, acheter. Mais si vous allez aujourd'hui dans nos villages, il n'y a plus d'activité. Leur activité principale, c'est juste, c'est la carbonisation. Donc, ils vont couper pour faire la carbonisation, ils vont vendre à travers toutes les villes, notamment de la République démocratique du Congo. Allez même ici dans la province du Kwilu, vous allez voir comment la forêt est transformée en savane. Donc, la jeunesse est au centre du tout. Parce que quand nous parlons de développement durable, il faut voir notamment nos enfants, l'utilisation présente, du temps présent et du temps futur. Les gens qui viendront après nous, ils seront en mesure aussi de bénéficier des ressources. Mais tant que l'État, si l'État n'est pas en charge par rapport de développer certaines activités et aussi de cibler les acteurs clés. Voilà, nous avons tant d'universités ici, en République démocratique du Congo, l'Utile est là, Kisangani, Lubumbashi, tout tant d'autres que je n'ai pas cités. Identifier les acteurs clés. Qui sont les spécialistes en termes de forêt? Ce n'est pas n'importe qui prenez une formation d'une semaine, deux semaines ou un mois, on devient spécialiste en matière. Non. Identifier les acteurs clés. Il y a des professeurs, des chefs de travaux, des assistants, des chercheurs, tout tant d'autres. Collaborer, créer des alliances. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant. Ils vont aller sur le terrain pour animer, pour informer, donner aux gens, dire aux gens que voilà ce que vous êtes en train de faire. Prochainement, ça sera ça, ça. Voici les conséquences de vos actes. Ils seront en mesure maintenant de bien utiliser et conserver des ressources. Mais tant que l'État, si les jeunesse, la jeunesse aujourd'hui est abandonnée, il n'y a pas des emplois. Ils vont vivre comment? Vous n'allez pas interdire aux gens de ne pas entrer en forêt, faire ça, non. Mais de développer les activités alternatives. Et le gouvernement est représenté, il y a des autorités. C'est comme je venais de soulever ici. Dans travers toutes les problèmes que vous avez trouvés aujourd'hui, il y a toujours des pénétrations, il y a toujours des éclaircies, il y a toujours des vides. Donc la forêt est en train de partir. Pendant que nous sommes en train de parler des poumons verts après la forêt d'Amazonie, mais vous allez entrer à la vérité terrain, vous allez voir comment la forêt est transformée en savane. Donc, ce que je veux, c'est que l'État congolais doit prendre en charge, notamment de développer de certaines activités alternatives, notamment dans les différentes provinces, des groupements, des territoires, des villages, et passer l'information. Et aussi, au niveau de l'école primaire, qui est déjà, les gens doivent déjà comprendre, dès le bas âge, hein, introduire même certains cours en caractère notamment de l'environnement, au niveau de l'école primaire, au niveau des secondaires, ça serait que ce n'est que ça soit tout simplement au niveau de l'université. Et aussi renforcer notamment la loi, ça sera quelque chose de très intéressant par rapport à cela. Mais on ne peut pas dire qu'il ne faut pas entrer en forêt, il doit vivre. Mais j'ai été obligé de prélever les ressources. Je sais que les ressources sont en quantité, en qualité limitée, pendant que les besoins sont en quantité, en qualité illimitée. C'est là où il y a des conflits, des conflits tout à fait naturels.
Oui, mais professeur, quand vous dites qu'il faut renforcer la loi.
Trouver des solutions par rapport à cela.
Professeur, quand vous dites qu'il faut introduire des cours sur l'environnement, par exemple, au primaire, et puis renforcer la loi, comment renforcer concrètement la loi?
Mais c'est tout à fait normal, parce que dès le bas âge, si l'enfant connaît que non, ici, si j'ai l'acte posé, ça sera un acte irréfléchi, ce n'est pas bon de détruire, parce que c'est le milieu où j'ai dit aller des plantes, j'ai dit aller de la forêt. Si je dois prélever la ressource, que ce soit un prélèvement rationnel. Si l'enfant, dès le bas âge, il connaît ça, il sera en mesure, dès qu'il va terminer l'université, bien que même s'il n'y a pas d'emploi ou quoi que ce soit, comment il va chercher, comment utiliser notamment la forêt. Mais si l'enfant n'est pas informé, ne connaît pas l'importance de la forêt, ne connaît pas qu'est-ce que la forêt lui donne, il va utiliser difficilement. Et ça, c'est important.
Et alors, pour renforcer la loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment procéder concrètement?
Concrètement, il faut des campagnes. Des campagnes de sensibilisation. Il faut mobiliser la population, il faut informer la population de la base. Et on forme la population au niveau du village, des groupements, des territoires, des provinces. Et foutiez des campagnes, peut-être même 2 mois, 3 mois, et on peut vulgariser ça, ça serait quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas, si la personne n'est pas informée, il ne connaît pas, il va utiliser la ressource tant qu'il veut. Mais il est important de vulgariser, notamment la loi, que la population sache que effectivement, ces questions ont été utilisées, ça veut dire, ma vie dépend de la forêt, ma vie dépend de ceci. Au fur et à mesure, je suis en train de détruire, c'est-à-dire je suis en train de détruire aussi ma vie propre. Et il faut maintenant vulgariser, il faut informer, même dans des églises, il faut passer les messages. C'est quelque chose de très intéressant.
Bien, comment impliquer les jeunes dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo et comment surtout faire respecter la loi? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Capi Service avec le professeur Eustache Kidikwadik, docteur en sciences de l'environnement. Kassereka nous appelle de Kindu. Vous voulez également participer, composez les 081 890 63 94.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, merci de suivre cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Comment impliquer les jeunes dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo? On va accueillir Kassereka de Kindu et Safari depuis Gabarrière. Kassereka, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour messieurs les journalistes, messieurs, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Oui, allez-y.
Ma question est celle-ci. Lorsque vous parlez que il n'y a plus de forêt à la République démocratique du Congo, vous savez que aujourd'hui quand nous décrochons nos diplômes, nos licences, je ne sais pas quoi, nous n'avons plus de fonction, nous les jeunes. Maintenant, c'est pour cette raison-là que nous sommes obligés d'aller dans la forêt pour couper de la braise, je sais pas de quoi. Et si nous faisons cela, sache que aussi l'État aussi est complice parce qu'il n'y a plus de fonction actuellement dans la République démocratique du Congo. C'est ça qui pousse les jeunes de se diriger dans des forêts pour faire ce que pour faire cela.
Bien, parce que voilà, vous dites que les jeunes ont terminé les études, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, alors ils se lancent dans la forêt pour y trouver des ressources. Quelqu'un a dit d'ailleurs tout à l'heure que la forêt est devenue comme un supermarché. Safari, vous êtes à Igabarrière, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Hein.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Safari?
Oui, j'aimerais contribuer de cette façon. La forêt est censée être protégée, mais malheureusement, les jeunes ne protègent pas la forêt. Localement, ici, là où moi je vis, la principale destruction de la forêt, ça dépend de la fabrication de braises. Hein. Ça, c'est ce qui se passe chez nous. Mais je proposerais ceci, c'est une suggestion. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en fait, de remplacer les makala à part ce qu'on appelait, par exemple, charbon? Je crois qu'il y avait charbon, on nous disait à l'école de charbon, qui était autre que le charbon à bois. S'il y avait moyen qu'on puisse intégrer, en tout cas cette usine-là, et puis de faire réintégrer, alors sensibiliser tous les jeunes qui peuvent y aller travailler. Moi, je pense que si on arrivait à cela, notre forêt pourrait bien se reposer. Surtout ici chez nous localement. C'est ça une petite suggestion en fait. Je vous remercie.
Bien. Benoît Guélor Ntumba, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'implication des jeunes dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo?
Oui, bonjour, chers journalistes. J'aimerais bel et bien intervenir quand ça fait. Vu que l'État congolais n'octroie pas souvent des emplois aux jeunes, plus ils disent que les jeunes n'ont pas de compétences, les jeunes se laissent abdiquer dans des manœuvres, et c'est par là que la gestion est accordée plus aux vieux. Mais ce que nous nous constatons comme jeunes, c'est que lorsque les vieux, le papa, se retrouvent dans des endroits de service dans l'administration, il y a des fois à les reprocher.
Oui, maintenant, quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à ces phénomènes?
Nous nous proposons ceci, que notre gouvernement, d'ailleurs, octroie cette opportunité à nous, la jeunesse, et au bassin et l'administration du pays, qu'on ouvre des portes aux jeunes par rapport à leur expertise. Des fois, nous pouvons quand même y mettre nos expériences et expertises. Et c'est par là que je demanderai à l'invité, c'est ça au moins la question, comment pourrais-je y accéder puisqu'il y a des demandes que nous effectuons, que nous donnons dans des institutions pour que cet accès à la jeunesse nous soit accordé.
Mais nous trouverons... Vous voulez parler de quel accès? L'accès à quoi exactement?
Allô?
Benoît, vous dites qu'on doit donner l'accès aux jeunes. L'accès à quoi?
C'est par rapport à l'administration dans du sujet que nous abordons ce matin.
Voilà, donc vous voulez que les jeunes aussi soient, qu'on leur confie la gestion des choses. Merci. Patrick AMB, vous êtes, vous nous appelez depuis Bumba. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'implication des jeunes dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo?
Ok, merci. Par rapport à la déforestation et la dégradation, reste et resteront des problèmes permanents pour les autochtones, car ils ne se retrouvent pas dans les planifications du projet durable des forêts du bassin du Kivu. Les accords de protection des forêts font entrer beaucoup d'argent et que l'État n'était pas aucunement contre aux autochtones. Aussi longtemps qu'il y a des populations qui vivent que de cette forêt. Et si on prenait des mesures pour les interdire de ne pas exploiter ces forêts, il y a des gens qui dépendent énormément de cette forêt. Vous pensez que ces populations vont vivre comment? Raison pour laquelle moi j'avais suggéré que l'État, en prenant les accords avec les gens qui protègent l'environnement, ils doivent tenir compte surtout aux jeunes. Leur trouver du boulot, réhabiliter des routes, construire des écoles, ça pourrait, en fait, quand les jeunes se rendront compte qu'ils sont impliqués pour cette gestion durable de la forêt, ils comprendront plus l'importance de la protection de cette forêt. Mais aussi longtemps que ces jeunes ont du mal même à trouver du travail, ne savent pas comment vivre, vous vous rendrez compte que cette forêt-là devient comme une main-d'œuvre pour chercher comment survenir à leurs petits besoins. Mais nous tous, en fait, cette déforestation nous dérange, nous suscite beaucoup de questions à notre égard. Mais le mieux serait que l'État revienne sur ses responsabilités.
Bien, merci Patrick.
Ses emplois.
D'accord. Pensez tout sous, surtout, pardon, à créer, à donner des emplois aux jeunes. Professeur Eustache, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Bon, peut-être c'est ça que c'était un thème vraiment très, 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 très intéressant, avec l'échange de gouvernance, notamment de la jeunesse, ou la gestion durable de nos forêts. C'est comme ils sont en train de dire ici, l'État est au centre. Et la jeunesse aujourd'hui, je prends l'exemple de la province du Kwilu. À l'époque, il y avait une activité, donc l'industrie notamment, issue notamment de pergettes, on exploitait notamment il y avait quand même des huiles de palme et on conservait la forêt. Mais aujourd'hui, si vous allez, je vous assure, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi. Quelqu'un qui a terminé n'a pas d'emploi, il va vivre comment? Alors, ces emplois, il faut que c'est l'État qui doit créer. Dans toutes les activités où il y a des initiatives, dans des villages, des groupements de territoire, il faut que les jeunes s'impliquent en matière, il faut les engager dedans. Quand il y a des constructions de routes, il doit être vraiment, même des écoles, des hôpitaux, n'importe quel type d'activité, il faut engager les jeunes. parce que ce sont les jeunes qui font vraiment très souvent au niveau du village la pression sur la forêt pour abattre et aussi pour la carbonisation. Si vous faites des enquêtes, vous allez trouver que vraiment j'ai pleinement raison. Mais si les jeunes là ne sont pas, ils ont étudié, ils n'ont pas d'emploi, ils vont vivre comment? Ce sont des pères de famille. C'est la raison pour laquelle l'État est obligé à chercher des moyens à collaborer ensemble avec les autochtones et la population locale, s'il y a des emplois, s'il y a quoi, ils créent et développer aussi des activités alternatives. Il y a tant d'activités, l'élevage peut exister. On peut faire aussi peut-être avec l'énergie notamment renouvelable, avec des panneaux solaires et autres activités que vous pouvez développer. C'est l'État qui est à la base, notamment qui doit faire toutes ces activités, etc. Quelque chose d'intéressant à travers toute la République démocratique du Congo. Pensez d'abord aux jeunes. Aux jeunes, ce sera quelque chose de très intéressant parce que les questions, si nous posons des questions aujourd'hui, même nous observons, allez vers la route qui mène vers l'ancien province de Bandoulou, vous allez voir, ce sont des jeunes qui sont à bord de véhicules avec des sacs de Makala. Et quand ils viennent, on vient avec, on pose la question, ils disent non, nous n'avons pas d'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer des emplois, et ce sera quelque chose de très intéressant, et aussi passer des messages dans les différentes écoles, surtout l'école primaire et post-secondaire, ce sera quelque chose d'intéressant, et renforcer aussi, notamment la loi, et avec tout ce que nous disons comme des emplois, ce sera quelque chose d'intéressant pour qu'il y ait une gestion durable, notamment des forêts. Le bassin du Congo, la République démocratique du Congo.
Bien, vous dites qu'il faut développer des activités alternatives autour des forêts. Vous avez parlé de l'élevage. Quels sont les autres types d'activités qu'on peut développer pour réduire la pression sur les forêts?
Bien, les activités, nous avons, il y a des projets aujourd'hui, par exemple le reboisement. Il y a le reboisement, nous avons, on peut lancer, par exemple, on dit, bon, il y a un projet sur le reboisement. Vous devez engager les jeunes. Il y a un projet sur... par exemple, vous avez...
Professeur, en parlant du reboisement, il y a un projet annoncé par les chefs de l'État qui vise à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Pensez-vous que cela est possible vu le temps qui nous reste et surtout impliquer plus des jeunes?
Oui, mais il faut que les jeunes soient impliqués. Nous, derrière moi, ici, si vous venez à l'université de Kinshasa, nous avons planté avec les étudiants de deuxième licence en écologie urbaine. Nous avons planté notamment les wénés. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, quand nous parlons de ce projet-là, c'est un projet qui a été lancé, mais nous devons impliquer en matière. Il faut planter. Tant que nous ne plantons pas, c'est très, très difficile. Et pour planter, ce n'est pas tout seul ici, tout autour de la ville. Il faut aller dans les différentes provinces. Et ce serait intéressant si vous engagez maintenant les jeunes aujourd'hui, surtout avec ce projet-là. Mais vous allez trouver que peut-être au bout de temps, vous allez laisser d'abord la forêt, ils ne vont plus couper parce que l'État va payer ces jeunes gens, ils vont créer des emplois et ça sera quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas d'activités qu'on peut développer, il y en a. Donc il faut qu'il y ait une gestion durable. L'État doit utiliser, l'État doit, disons, recenser les jeunes à travers les provinces. Et ça sert quelque chose de très intéressant. Tant qu'il n'y a pas des emplois, ils vont faire toujours pression sur les forêts.
Voilà, tant qu'il n'y a pas d'emplois, ils vont exercer la pression sur la forêt. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs, où nous parlons de l'implication des jeunes dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Il y a eu plusieurs questions. Par exemple, il y a Patrick Kaimba de Bumba qui a dit qu'il y a beaucoup d'argent que l'État reçoit par rapport à la dernière rencontre, la COP, les financements reçus après la COP 26. Ils se disent, mais pourquoi cet argent, on ne sent pas l'impact de cela dans les milieux ruraux autour de nos forêts? Professeur Eustache.
Je n'ai pas bien compris la question.
Je disais qu'il y a un auditeur bienvenu tout à l'heure qui a dit qu'il y a sous l'État reçoit des financements. Après la COP26, il y a des financements. Mais pourquoi on ne ressent pas les effets? Pourquoi au niveau des milieux ruraux, tout ça, on ne ressent pas des activités, tout ça, visant à réduire la pression sur la forêt?
Exactement. Donc, s'il y a des financements aujourd'hui, il faut qu'il y ait des effets. C'est-à-dire, on finance pour quelles raisons? Si aujourd'hui on finance, par exemple, dans le cas de reboisement, dans le cas de je ne sais pas où telle ou telle activité, il faut qu'il y ait des effets qui sont tangibles. Donc, les résultats attendus, qu'est-ce que nous cherchons? Mais si vous avez financé et qu'il n'y a rien, comme activité, les résultats ne sont pas satisfaisants, ça sera difficile. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si aujourd'hui il y a des projets, par exemple dans tel ou tel, dans le cas de reboisement, dans le cas de telle ou telle activité, il est intéressant de chercher des acteurs clés, ceux qui ont une expérience, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, et vous croyez de ce qu'ils ont fait. C'est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas, nous pouvons crier, nous pouvons présenter des émissions ici du matin jusqu'au soir, du crier jusqu'au 30. C'est très difficile. Donc, même la déforestation dont nous parlons ici, ce n'est pas dans la direction, c'est ça, il faut aller dans les milieux ruraux. Par exemple, la province du Kouil, si aujourd'hui, on doit encore renouveler l'activité de telle et telle, il y avait une plantation de verre au Congo. Donc, l'objectif, c'était pour planter les palmiers et ils ont produit notamment les huiles de palme. Je vous dis, aujourd'hui, si vous rentrez, il n'y a plus rien, toute la forêt est transformée. Mais si l'État congolais, aujourd'hui, il prend cette activité, il relance encore cette activité, ce projet-là, de planter, par exemple, le palmier à huile pour produire. C'est quelque chose de très intéressant. C'est parmi les solutions que nous sommes en train de chercher. Mais si il n'y a pas des acteurs qui sont clés, que nous avons des gens qui sont compétents en matière, ce sera quelque chose de très important. Nous sommes en train de voir. On parle d'un projet, par exemple, on dit 1 milliard d'euros. Vous allez trouver n'importe qui crée un projet brusque. Parce qu'il a entendu qu'il y a 1 milliard. Non, le projet doit être quelque chose déjà que vous avez planifié. On sait que mon projet, ça cadre avec ça. C'est quelque chose de très intéressant. Les universités sont là. Qui est des contacts, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, les personnes ressources, ce sont des gens qui sont importants que nous pouvons utiliser dans le cadre aussi de la gestion durable de nos forêts pour aider un peu nos jeunes à participer à ça.
Bien, mais est-ce qu'on organise régulièrement des sensibilisations ciblées concernant les jeunes par rapport à la gestion durable des forêts et qui le fait souvent, professeur? Quelle structure, je veux dire?
Très cadre rare, c'est vrai. Il y a des ateliers, il y a des conférences, surtout dans les milieux urbains. Par exemple, ici, dans la ville de Kinshasa, je vois, il y a des conférences sur la gestion, on les fait. Mais est-ce que cette information arrive dans nos villages? Il faut qu'il y ait ces gens qui ont subi, par exemple, cet atelier ou la conférence. Il est intéressant de former ces gens. Ils doivent rentrer dans, au fond, à la base, au niveau des villages, au niveau des groupements, des territoires. C'est vrai que c'est très intéressant de former la population que la forêt, que ça constitue tout un magasin pour tout le monde. C'est là où nous devons aller pour ces ressources. La façon dont nous devons utiliser, il faut utiliser d'une manière rationnelle. Voilà comment vous devez faire. C'est quelque chose de très intéressant. Mais si, il y a des ateliers qui terminent rien qu'ici dans la ville de Kinshasa, ou soit dans des provinces, et dans nos villages, on ne fait rien. Vous voyez que l'information ne passe pas. Or, la communication, c'est un élément très, 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 très important. Un élément très important que tu peux trouver des solutions par rapport à certains problèmes que nous en avons dans nos vies. Mais si les gens ne sont pas informés, ne sont pas communiqués, ça sera très très difficile pour que les jeunes participent à cela. Mais j'ai vu des ateliers, je vois, dans la ville ici, je vois, dans les provinces, je vois. Mais ces informations n'arrivent pas dans nos milieux ruraux. Il faut que les gens descendent dans les milieux ruraux à la base pour informer aussi la masse. Et c'est quelque chose d'intéressant.
Bien, et qui doivent descendre dans les milieux ruraux pour parler avec la masse et particulièrement avec les jeunes?
Bien sûr, mais nous avons des services. Par exemple, nous avons tout un ministère de l'environnement. Il y a d'autres ministères que nous voyons aujourd'hui. Quand nous parlons de la forêt, là, il y a un autre ministère. Donc, à partir du ministère, à partir de l'État congolais, il va mobiliser. Il forme d'abord une équipe ici, à Kinshasa. Cette équipe va aller au niveau des provinces au niveau des territoires, des groupements, des villages. C'est ça que nous devons faire. Mais si nous sommes en train de faire tout simplement des colloques, des ateliers, rien qu'ici dans la ville de Kinshasa, et que l'information n'atteigne pas au niveau de la base, tout ce que nous allons faire, ça sera nul. Parce que la différence que nous parlons ici, ce n'est pas dans la ville de Kinshasa. Il faut aller dans les milieux ruraux.
Il faut aller dans les milieux ruraux. Bien, on va accueillir un autre auditeur, Laurent Mosengo de Kisangani. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
C'est éminent.
C'est plutôt Éminent Mwanda qui est là, de Bukavu. Voilà. Éminent est à Bukavu et Laurent Mosengo qui Kisangani. Éminent, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour monsieur Jody, bonjour invité, bonjour à tous les hôtels de la radio, surtout les forestiers qui vivent à Chabunda. Monsieur, nous savons très bien que la seule réserve naturelle qui nous reste à un c'est la forêt. la forêt constitue au moins un atout nécessaire et d'autres pays, certains autres pays, ne vivent que de la forêt. Mais notre forêt congolaise est mal gérée du fait que les ministères ayant dans ses attributions la gestion de la forêt, dont je cite le ministère de l'Environnement, qui est représenté dans toutes les provinces de la RDC, ne fait absolument rien. Je donne l'exemple du parc national du Kahuzi-Biega, monsieur Jody. Vous voyez, en plein parc, on est en train d'abattre le bois, ou plutôt les arbres, ainsi de suite. On fabrique même des braises dans le parc. Et comment, maintenant, nous pouvons prétendre avoir une bonne forêt. Et la loi sur l'environnement devrait être d'application, du fait que surtout le grand principe des pollueurs-payeurs, on devait d'abord appliquer cette loi en intégralité. Nous avions étudié les cours de droit de l'environnement à l'université, mais si je dis ce que nous sommes en train de voir, c'est une entrée à faire qui est sur le terrain. Nous pouvons seulement interpeller, il fallait d'abord restructurer, parce que le ministère de l'Environnement, c'était le bio qui représente le ministère de l'Environnement, surtout dans les territoires, sont presque inviables. Je prends l'exemple de Chaboun. Si on vous dit que tu es un environneur, c'est peut-être une façon de vous de se moquer contre vous. Parce que il n'y a pas beaucoup d'importance pour ces gens-là. Ces gens-là sont en train de traverser le moment le plus difficile. Ils sont en train d'être méprisés, même s'ils peuvent avoir des initiatives, vouloir mettre certaines choses en règle. Il y a le téléphone qui peut sonner, c'est moi qui ai envoyé celle-là, il doit faire ceci, ainsi de suite. Mais si au moins on restructurait d'abord le ministère de l'Environnement et attribuer ou soit renforcer ce ministère-là, peut-être on peut espérer dans les jours à venir on peut espérer une bonne protection des forêts. Même si je vous dis, si l'exploitation forestière continue à s'étaler ici, nous risquons de vivre le pire dans l'avenir, parce que le gestionnaire de la forêt, il y a aussi des lois qui sont en train d'être, il y a aussi des décisions. Il ne faut pas faire ceci dans cette partie. Il y a les gens qui sont moins proches des parcs nationaux. Que je prends toujours l'exemple de Kahuzi-Biega, monsieur, je dis, les gens de Ndouma, on les dit de quitter le parc, mais où est-ce que ces gens vont vivre? Est-ce qu'il y a des mécanismes d'accompagnement de cette décision?
D'accord. On veut les chasser de là, mais on leur propose rien par ailleurs. On va accueillir Monsengo. Laurent, merci beaucoup, éminent. On va accueillir Laurent Monsengo de Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Je voudrais d'abord rectifier le nom. C'est pas Laurent Monsengo, mais plutôt c'est Laurent Moussemé. Laurent Moussemé Mondeloa.
Ah,
je suis habitant de Mambasa, mais je suis en séjour à Kisangani.
Laurent Moussemé et non Monsengo. Ok, c'est noté. Allez-y.
Ok, merci beaucoup, monsieur Jody. Bon, je vous ai suivi dès le début avec le procès. Vous n'avez cessé de poser une question beaucoup plus pertinente, laquelle est de savoir comment mettre fin à cette situation que nous connaissons dans la gestion durable des forêts dans notre pays. Bon, moi, je suis un acteur de l'environnement depuis 2008 à travers les programmes d'éducation à la santé et à la gestion de l'environnement, qui est une organisation non gouvernementale du territoire de Mombasa, qui a beaucoup œuvré dans le domaine de l'environnement et surtout dans la protection de la faune. Nous avions exécuté quatre phases d'un projet de lutte contre le braconnage avec le financement de l'ICM Carpe. Bon, le problème qui se pose dans la gestion de l'environnement chez nous en République démocratique du Congo, et moi je vais beaucoup plus focaliser mes attentions sur les cas du territoire de Mambasa où j'ai vécu, où je vis et où je connais le rouage et la réalité du fonctionnement de la gestion de la forêt. Certes, il y a bien des choses qui sont déjà développées avec ceux qui m'ont précédé, surtout par les professeurs.
Bien, soyez bref, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Quelle est la question? Allez-y directement à la question.
Oui, je n'ai pas de questions, mais plutôt, je voudrais revenir sur ce qui doit être fait.
Alors, qu'est-ce qui doit être fait d'après vous?
Oui. Il y a beaucoup de financement, il y a beaucoup d'argent qui est en train d'être donné par les bailleurs de fonds. Et qui ne se limite qu'au niveau de Kinshasa. Je pense qu'il y a un ami qui a déjà dit ça.
Oui, ça, quelqu'un a déjà parlé de ça. Oui.
Oui, il y a des bureaux climatisés et il y a des ONG qui vont se dire qu'ils travaillent à Mambasa, alors que sur place, ici, Mambasa, ils n'ont pas d'ancrage. Ils n'ont même pas de répondant sur place. Alors qu'il y a des organisations locales sur place qui pouvaient bénéficier de ce projet et qui pouvaient mieux impliquer les jeunes, les sensibiliser et créer des activités alternatives pour les permettre d'avoir des activités qui peuvent compenser à la déforestation. En plus de cela, il y a le problème de la répression de la loi. La loi existe bel et bien en République démocratique du Congo.
Mais ces lois ne sont pas appliquées.
Le plus grand problème, c'est l'application des lois. Une loi ne peut pas être appliquée s'il n'y a pas de mesures de répression.
Merci beaucoup, Héritier. On va accueillir le tout dernier intervenant, Héritier de Bounia. Bonjour. Rapidement, quelle est votre question?
Bonjour, Monsieur Daniel. Bonjour à l'Héritier.
En quelques secondes, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On n'a plus beaucoup de temps.
Le courant que nous avons pourrait nous servir à préparer nos nourritures. On ne pourrait pas continuer à recourir au Makala.
Voilà.
La toute dernière préoccupation, okay. Je voudrais interpeller la ministre de l'Environnement que son travail n'est pas non seulement de rester dans son fauteuil au bureau, elle doit descendre.
Elle doit descendre sur le terrain pour palper la réalité du doigt. Merci. Professeur Eustache, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'implication des jeunes dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo?
Merci beaucoup d'abord pour les soucis, donc, pour traiter notamment le thème très, très, très important avec l'implication des jeunes de la gouvernance, notamment des forêts, ce qu'on venait de dire. Donc, la jeunesse est au centre de tout. Donc, nous devons aider notre jeunesse parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est peu des programmes, notamment du passé. Mais le gouvernement, ce que j'ai dit, le gouvernement, avec le ministère tutelle, si aujourd'hui vous proposez ou vous donnez quelque chose dans le cadre de projet ou quoi, il faut qu'il y ait le suivi. Vous devez aller sur le terrain vérifier si réellement ce que nous avons fait, ils ont vraiment simplement concrétisé ou pas. Mais il y a certaines histoires, vous allez trouver tel projet, vous arrivez sur le terrain. C'est comme vous venez de dire un ami qui vient de dire là. Donc le dernier mot est que l'État est obligé de prendre sa responsabilité en matière de la gestion durable des forêts. Et les jeunes doivent impliquer, aider les jeunes, créer des emplois, des activités alternatives. Je vous ai donné l'exemple de la province du Kwilu. Une province rien qu'agricole, mais il y avait à l'époque des pelles d'être. Aujourd'hui, c'est parti, il n'y a plus rien. Donc, c'est l'État. L'État doit créer des emplois pour que les jeunes puissent aussi bénéficier de quelque chose pour leur vie. Sinon, ils vont toujours faire des pressions, ça sera quelque chose. Et aussi, l'éducation et la mobilisation, l'information. Ce que nous allons prendre comme les décisions ici, il faut la descendre sur le terrain. Il faut mobiliser les gens, informer les gens dans des écoles, et au secondaire, au primaire et aussi au niveau des villages, des groupements, des territoires, des provinces. C'est là quelque chose d'intéressant. Et la population locale doit aussi impliquer avec ces informations-là. Donc je pense que c'est un thème très intéressant. Et je suis très content de ça, de développer. Vous voyez que partout, à travers notre pays, il n'y a que des problèmes.
Voilà.
En matière notamment de la gestion des forêts.
D'accord.
Alors, on ne peut pas laisser comme ça. Il faut vraiment trouver des solutions qui sont durables.
Il faut pas passer à l'action et surtout faire respecter la loi. Merci professeur Eustache Kouadi. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'environnement. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Bien, tout à l'heure, je disais dans la deuxième partie de cette émission au Capi Service, nous allons aborder un thème qui va aussi vous intéresser. Nous allons parler de ce qu'il faut faire, des stratégies à mettre en place pour lutter contre l'exode rural en République démocratique du Congo. Donc ce sera dans la deuxième partie de cette émission Okapi Service. Des questions, des préoccupations ou des suggestions, eh bien, vous pouvez nous écrire à service@radiookapi.net, allez également sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Il est 11h à Kinshasa.